Manouchka Poinsignon, la boucle. Le foulard de soie turquoise est là, nonchalant, sur le dossier de la vieille chaise. Il attend d'être lavé, nettoyé du passé. C'est le foulard porté lors du jugement qui a eu lieu au milieu de l'été, pendant une canicule dans une ville de Franche-Comté, prisonnière des montagnes. La ville emmagasine la chaleur et la rend à ses habitants la nuit, le jour, comme le ferait un radiateur géant. Elle empêche les gens de dormir dans ce sein aux pierres bleues, les pierres de chez Louz. Pierre douce au regard, d'un bleu gris avenant, doublé d'un ocre pastel très pâle. Pierre double. Pierre qui tient la ville droite, rectiligne, au centre d'une boucle de fleuve, qui aime la fantaisie, posée dans un berceau aquatique et végétal. La ligne courbe du fleuve, protégée par les montagnes forestières, où se dissimule le lynx. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on rêve. Le lynx sait se cacher, il est timide. Peut-être est-il passé par là, peut-être pas. Le foulard passe dans la bassine. On ne jette pas la soie dans une machine à laver. On la caresse, avec un savon de Marseille, dans de l'eau morte. Et puis, on l'étend au soleil du printemps dans le jardin. Lorsque le foulard se met à voler au vent, on le prend en photo. C'est joli. Turquoise flottante, un bateau libéré. Et hop, on envoie la photo au fils. Au fils revenu qui répond « C'est quoi cette couverture bleue ?» Impossible de voir mon fils. Les habitants de France et du monde entier sont tous consignés à rester chez eux. Confinés, sauf les soignants, les éboueurs et les marchands de victuailles. Un virus sévit sur le monde. Fils revenu, mais non visible, consigné chez son père, à la ville. Quelques dizaines de kilomètres de chez moi. C'est frustrant, mais je garde patience. Il n'y en a plus pour très longtemps. Juste encore un mois et demi. Mais que représente un mois et demi pour quelqu'un qui sort d'un enfermement de 9 mois? Mon fils est-il juste en train de se remettre de sa réhabilitation, d'appréhender le temps d'une autre manière, de sentir les jours du printemps sur sa peau, dans le jardin de son père. Il n'est guère communicatif par machine interposée, cela n'a pas changé. L'été du jugement m'a obligé à débuter une série de déplacements vers lui, le fils, vers l'emprisonné, le détenu, le confiné, le captif, le prévenu, le reclus, l'enfermé, l'arrêté, l'incarcéré. Première obligation, la rencontre avec Madame Ivry, avocate, choisie par le fils d'après les appréciations sur Internet lors de sa garde à vue. Les nuits d'étape de mon voyage se passent chez les amis du fils, Fred et Lara. Des nuits de fièvre chaude, jalonnées des voix d'insomniaques, des gens du bas de la rue. Les enfants jouent jusque très tard dans la nuit, car il fait trop chaud. Je ne dors pas beaucoup. C'est une canicule qui sévit, une dure et sèche de celle des climats continentaux, irrespirable et écrasante. J'ai obtenu un droit de visite. Un seul. Le père a déjà, lui, obtenu un droit de visite permanent, c'est-à-dire pour toutes les semaines qui suivront, celles ultérieures au jugement. Moi, sa mère, j'ai dû écrire au juge, puis refaire entièrement le même dossier. On ne m'a pas dit pourquoi. Parce que je suis une femme, peut-être. Qui sait? Les maisons d'arrêt sont des mondes masculins, comme n'importe quelle structure architecturale, institutionnelle, scolaire, médical. Les vacances d'été se déroulent dans les soucis de justifier de certaines paperasses qui justifient elles-mêmes de certaines autres paperasses. Une somme de coups de fil à la maison d'arrêt. Maison des prisonniers. La photo du foulard s'est envolée par texto. J'ai un fils qui ne répond presque jamais. Est-ce dû à son caractère ou à sa génération? Les deux. Il est comme ça. Comment comme ça? Eh bien, c'est un angoissé. Un très grand angoissé dyspraxique. QI 146. Pas envie de parler. Beau, à 15 ans, une fille l'embrasse dans la rue, lui roule une pelle devant moi. Étrange sensation de découvrir son garçon dans un monde sensuel, justement. Il se laisse faire, tiens. Les nuits, parfois, il fugue, me laissant dans l'angoisse et la désolation au bord de la folie. À 16 ans, il part chez son père. Décision prise à 7h du matin. Je ne suis pas du matin. Professeur de tai chi, pas du matin. Donc il part chez son père et durant plusieurs mois, je ne le revois pas. Il revient avec une fille tellement belle, longtemps après, que je l'ai tout de suite adoptée. J'en suis devenue fan et c'était comme si on m'avait fait un cadeau. L'histoire d'amour a duré 3 ans. 3 années de fusion. Une fois, de loin, je l'ai aperçu, mon fils, au sein d'un groupe de skaters. L'ayant prévenu par copain interposé, il est venu me parler 5 minutes, puis est reparti. Frustration et tristesse. Alors parfois, je tournais dans le quartier, dans ma voiture, jusqu'à ce que je l'aperçoive. Et je le regardais de loin, les larmes dans les yeux, l'angoisse dans le ventre et l'incompréhension. Aujourd'hui, il est revenu d'un long périple, mais je ne peux toujours pas le voir. À cause du virus, le monde est confiné. Que nous arrive-t-il? Je dois rester dans ma maison au village. Il doit rester chez son père. Qu'allons-nous devenir? J'ai rangé le foulard de soie turquoise après l'avoir humé et plié. Il ne sent plus le sale, ni la prison, ni le fleuve, ni les nuits d'insomnie. Le foulard a traversé avec moi l'aventure, celle des tourments et des parloirs, celle de la boucle du fleuve. Il a entendu tout ce qui s'est dit. Je n'étais pas seule, j'avais le foulard. Je n'étais pas seule, j'avais les amis. J'avais l'appareil photo et mes nouveaux amis de 30 ans de moins que moi. Les amis de mon fils qui m'hébergeait, Fred et Lara. Chaque fois, ils m'ont hébergé. Contre la canicule, contre le froid, contre la pluie, contre la solitude. Le jugement s'est déroulé dans la chaleur de l'été. Rendez-vous à 8h du matin. Je ne suis pas du matin. La cour devant l'entrée du tribunal est immense, presque blanche, écrasée par la canicule. Le ciel au-dessus des toits est un grand carré bleu. Le hall, moderne, large. Des sièges en métal, accrochés au sol, enracinés. Passent de rares personnes, puis arrive l'avocate. Celle qui voit la vie en positif, celle qui dit vrai. On se serre la main, entre femmes. Nous avons eu une rencontre préalable, toutes les deux, dans son étude. Elle a étudié le dossier de mon fils. Elle a accepté tous les documents que je lui ai laissés, ceux que j'avais gardés depuis son enfance, les preuves des visites chez les psychologues, chez les orthophonistes, les kinésiologues, ainsi que les poésies, les dessins. Il n'y a qu'une maman pour garder ces choses-là, m'a-t-elle fait remarquer. Au moins, nous nous sommes reconnus, là. » La cour vient d'entrer, mais auparavant l'avocate a exigé que son père et moi soyons assis côte à côte et non séparés par le parrain, un ami venu lui aussi. Elle veille, face à moi, très loin, petite, mais tout en noir, dans cette immense salle sans fenêtre, la juge. À ma droite, à mi-chemin, en hauteur, le fils est entré entre deux gendarmes. Il s'est vêtu de la chemise de lin écrue que je lui ai achetée. Mon cœur s'est mis à danser en mouvement de transe initiatique. Une danse pour vérifier si je pouvais garder mon souffle ou si je n'allais pas m'écrouler comme une tour aux pieds coupés. Dégonflé, avachi, mais non. À gauche, face au fils, le procureur, grand, long comme une asperge. Et aussi, assis, ratatiné, l'avocat de la partie civile. Il représente la personne qui a eu peur de l'arme tenue par mon fils au distributeur. La personne victime, une femme, celle qui fut saisie de frayeur et obligée de céder ses billets sous la menace de mon fils. Elle aurait pu mourir de peur. Peut-être qu'elle restera traumatisée durant toute sa vie. Peut-être que maintenant, elle craint d'aller au distributeur de billets. Et c'est mon fils qui a fait cela. La juge relate les faits froidement, techniquement, faisant ressortir la faute, soulignant le côté navrant de la chose, avec un père et une mère exemplaires tout de même. Un père expert comptable, une mère aimante. Ici, on découvre que le métier de la mère n'a pas d'importance. Un père qui pourrait se mettre à la retraite, mais qui continue son métier. L'accusé est pourtant doté d'une intelligence exceptionnelle, d'un quotient intellectuel inhabituel. Mais pourquoi ? Quel gâchis ! L'avocate connaît le jeu qu'elle doit jouer, peu importe le statut de la femme. Oui, un QI trop élevé, des angoisses perpétuelles, ne pas être compris des autres et pourtant avoir l'attitude d'essayer de comprendre les autres. La dyspraxie, les pleurs quotidiens après l'école, les professeurs dépassés et inaptes à comprendre car non formés. La peur des autres, vouloir être seul, mais inventer toujours quelque chose. Des moteurs, des robots, des circuits électriques. Et pour moi, espérer toujours une amélioration qui ne vient jamais. Et un jour, le perdre de vue, le perdre du corps, de l'âme. Et puis il est parti, chez son autre parent, le père. Je n'avais plus d'informations. J'allais le regarder de loin, assise dans ma voiture. Il errait avec des amis de skateboard dans un quartier de banlieue de la ville du Sud. Avait-il commencé à consommer de la cocaïne ? Non, a-t-il dit. À 22 ans seulement. À 22 ans seulement. Pourquoi seulement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce n'est donc pas si tôt que ça ? Aujourd'hui, dans la chaleur jaune, le jugement, le procès, l'avocate a évité de justesse les assises. Sinon, il en prenait pour 10 ans minimum. Nous sommes en correctionnel. Correction. Il reçoit une correction. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a le regard de l'avocate. Et pourtant, d'elle, je ne vois que son dos. Et parfois, elle tourne la tête vers moi, comme pour me montrer une complicité, pour me rassurer, m'assurer qu'elle tient son rôle. Un regard bienveillant, furtif. Ses yeux croisent les miens. Il y a comme une intimité à ce moment-là, entre elle et moi. Ou bien de la bienveillance, ou bien est-elle assez entraînée à plaider afin que chacune puisse y trouver ce qu'elle cherche. Je réponds en fermant subrepticement les yeux. Vite, pour que je retrouve les siens qui me rassurent dans ma détresse. Je regarde mon fils. Il parle, se défend, argumente, trouve les mots exacts. Il possède toutes les ficelles pour expliquer et son mode de défense est brillant. Je ne l'ai jamais entendu si bien ni si longuement parler. La juge reprend. Votre parcours est désolant. Ça vous appartient. Vous avez fait un blocage pendant votre scolarité à cause d'une phobie sociale. Vous êtes allé jusqu'à la psychomanie majeure, jusqu'au craving. Craving est un nouveau mot pour moi. Je l'ai appris au parloir. La juge continue. Vous avez trouvé votre arme sur Internet. Vous étiez dans la fascination du fonctionnement. Un Colt 44. Je resserre le foulard autour de mon cou. Ne le lâche pas. Sa douceur m'aide à suivre. Le fils répond que c'est une arme, où il faut réactiver le chien pour que ça fonctionne. La première fois, ça n'a aucun impact. Un Colt 44. Pourtant, c'est mon fils que l'on juge. Mon fils, mon ange, mon enfant. Celui qui a de l'empathie à en pleurer envers les autres. Celui qui écrit des poésies. Mon garçon, que j'ai embrassé tout petit, frêle comme un oiselet, que j'ai éduqué. C'était ça, le procès. Une pièce de théâtre dénuée de jeux d'acteurs. Il y avait des vrais gendarmes, une vraie juge, un vrai procureur, une avocate vraie. Puis la famille, les amis, notre propre réalité. La juge continuait. Cela détonne de nos dossiers habituels. Quel gâchis! Le verdict tombe. 4 ans ferme, 12 mois de sursis et obligation de soins. Nous devons sortir de la salle pendant le délibéré. Anxiété le père, anxiété le parrain, anxiété les amis, et Mila qui est près de moi. Et moi, qui suis entrée dans une irréalité de verre, j'attends la suite comme dans un bocal. L'avocate garde son attitude positive. Elle nous parle dans le couloir. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Je ne vois que son air rassurant. Je n'entends pas ses paroles. Je ne sais que la boire des yeux. Je m'accroche à son positivisme, à cette volonté d'améliorer les choses. Elle repart dans la salle d'audience. Il y a un délibéré à partir duquel un autre verdict peut naître. Le hall est gris, blanc, ocre. Je me sens seul. L'extérieur est trop habillé de lumière. Il y a trop de bleu dans les cieux. On préfère regarder dedans, se regarder les unes les autres, les uns avec les unes. On ne sait pas quoi dire. On attend. Il fait trop chaud. L'avocate revient, elle dit. 2 ans ferme, 12 mois de sursis. Il y aura la remise de peine automatique. C'est une pluie d'informations, même si cela est court et concis. C'est une pluie débordante. On ne se rend pas compte. Je ne sais pas encore les allées-venues, les kilomètres que j'avalerai. En attendant, l'avocate nous a fait signe. Nous avons la permission exceptionnelle d'embrasser notre fils, le père et moi. Nous avançons vers lui. Moi, la première, je tends déjà presque les bras. Mais les gendarmes se dressent vivement entre nous. Ça fait peur. On a la permission du proc, lance l'avocate. Voilà, ça fait série télé. Le proc. Peut-on plaisanter un peu pour ne pas sombrer? Je demande la permission à qui? Un gendarme a-t-il le sens de l'humour ? J'embrasse mon fils avec tous mes bras et avec mon écharpe de soie turquoise. Mes mains sur ses épaules, je l'enveloppe. « Je t'aime, » je dis. « Je t'aime, » il dit. Voilà, c'est fini. Il part entre les deux gendarmes. Je le vois de dos. Heureusement que Mila reste en ma compagnie. Ainsi, cela me permet de ne pas me retrouver seule d'un seul coup. Mila, fidèle amie de mon fils, est une personne jeune et artiste. Sa sensibilité fait d'elle un être de belles pensées et attentionné. Une conversation partagée avec Mila est constructive, cordiale et encourageante. Je marche dans la ville au bord du fleuve. L'eau prend mes pensées. Elle me les fait voguer en surface. Je les lui confie. L'eau m'apaise. Je la suis à chaque visite jusqu'à la maison d'arrêt. Elle me suit. Je la suis. Je longe le fleuve hors la boucle pour aller à mon rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous banal. Il est hors du commun, mais pas hors les murs. La boucle est protectrice. La ville a été construite en son sein. C'est une sécurité. On y prend goût. En dehors d'elle, l'ambiance est différente, plus aléatoire. J'ai rendez-vous devant la maison d'arrêt, une demi-heure à l'avance sur le trottoir. C'est la consigne obligatoire. Mon trajet à pied depuis chez mes amis dure 30 minutes. J'ai un besoin intime de longer le bord du fleuve. Cela rallonge le parcours de 10 minutes. Mais le tracé direct est stressant. Trop de circulation, trop de bruit. Mon cœur lourd, l'eau le fait flotter. Le jour où Fred m'a appelé, tout hésitant avec la voix triste, c'était la fin du printemps. J'ai capté son hésitation. Puis les mots sont venus. Garde à vue, arme, avertir son père, son téléphone, avocat. J'ai réagi violemment. Quel con ! Mais quel con ! Brut ! Craché ! Cache ! Esprit en feu. Mourir. Être anéanti. Résumé, mon fils a menacé une femme avec une arme à feu devant un distributeur afin que cette femme lui donne illico les billets qu'elle tenait dans sa main, afin que lui, le fils, puisse acheter sa drogue, car il était en état de craving. Est-ce qu'il lui a parlé ? File-moi le fric, donne les billets, dépêche-toi. Je ne l'imagine pas. C'est en dehors de mon concept par rapport à lui. Lui et cette information, ça ne va pas ensemble. Il y a une erreur quelque part. Aujourd'hui, avec cette histoire derrière, je ne sais pas où est l'erreur. Aujourd'hui, mon fils est sorti, mais je ne peux pas le voir. Aujourd'hui, après l'enfermement, il est confiné à cause d'un virus très dangereux. Du moins, c'est ce qu'ils disent, très dangereux. Alors le monde entier reste à la maison. Depuis le dernier parloir, le fils est revenu dans le sud. Ça, c'est aujourd'hui. Et avec la phobie des communications de sa part, pas d'appel, pas de texto, rien. Ce jour-là, le long du fleuve, au cœur de la ville, j'alimente mon esprit des architectures. Celles des escaliers, surtout. Les escaliers byzantins sont à l'extérieur des maisons. La configuration de la ville, entourée de montagnes et limitée par la boucle du Doubs, par le rocher de la citadelle, ôte une part d'espace à chaque habitation. Ainsi, des escaliers extérieurs permettent de gagner de la place à l'intérieur des bâtiments. La ville se retrouve ainsi confinée, elle aussi, dans la boucle. Boucle protectrice. douce boucle d'enceinte. Ces escaliers sont déclinés dans tous les styles possibles, selon les époques ou selon le goût des propriétaires. On y trouve plusieurs matériaux utilisés, bois, pierre, carrelage illustré, métal, peinture. C'est d'une étonnante diversité dans une même ville. Cette ville a prospéré dans un équilibre entre l'eau et la pierre, entre la verticalité des bâtisses imposantes et l'inertie du courant du fleuve. Elle n'est pas que minérale. Sa verdure enrobe plusieurs quartiers. En déambulant dans cette beauté nourrissante, je repense au mot « craving » que je viens de découvrir au procès. La traduction classique de ce mot anglais est « désir impérieux ». Pour une personne en addiction, il s'agit du moment central où le besoin et le désir sont si forts qu'il est souvent accompagné d'une grande détresse psychologique. Cela peut se lire dans le cerveau. On parle de neuroadaptation. Voilà, un état de fait que nul ne peut maîtriser. Je ne peux qu'accueillir l'information, assister au résultat de cette chose. Recevoir tout cela dans l'humilité, par amour, par humanité, par devoir impérieux. Son désir impérieux m'a mené à mon devoir impérieux. Ma déambulation près de l'eau, mon écharpe turquoise flottant autour de mon cou, je me dirige en errant vers l'église la plus centrale de la ville. Par chance, elle est ouverte. Je ne savais pas que j'allais entrer dans une église aujourd'hui. Je copie ma mère, ma grand-mère. Je me laisse emporter par la tradition. Je décerne un cierge allumé à la Vierge Marie en serrant mon écharpe. Retour à la case enfance. Catholicisme, animisme, magie, justice. Quelle différence! Cette Vierge miraculée pourrait peut-être faire quelque chose pour moi. Empêcher que mon fils ne meure un jour, trop tôt. La pénombre odorante me donne des frissons. Les arcs-boutants me regardent si haut que je ressens leur poids. Ils m'écraseraient s'ils le pouvaient. D'un mouvement rapide, en tant que danseuse, je ressors au soleil. Rien d'aussi bon que la lumière. Un baume de feu. Maintenant que le procès a eu lieu, j'ai le devoir impérieux de visiter mon fils au parloir pendant 2 ans. Peut-être moins. Mieux vaut dire 2 ans. N'anticipons pas sur ce qui n'a pas encore lieu. Ne prenons pas le risque d'être déstabilisés. J'ai le vertige. Comment vais-je faire face à de si longs et si nombreux allers-retours? Le train? Oui, le train. J'ai eu droit à un parloir avant le jugement en juillet. J'ai fait une demande de droit de visite permanent. Son père aussi, me demandant toutes les ficelles et les coordonnées pour l'accomplir. Ce que je fis avec bon esprit d'accompagnement. Bizarrement, je n'ai eu droit qu'à un droit de visite unique avant le jugement. Son père a eu le privilège d'avoir illico un droit permanent. Pourquoi donc cette différence? J'ai envoyé un courrier au juge. J'ai appelé tous les postes de l'établissement pénitentiaire, disant que j'étais la mère. J'ai appelé le parloir, où il ne savait rien. Une personne m'a enfin indiqué qu'il fallait refaire le dossier en l'envoyant à la maison d'arrêt et non pas au juge. Cela, car le procès avait eu lieu. Cette personne était une femme, je dois le noter. Les hommes ne savaient jamais rien et n'avaient jamais d'idée. Ça alors, c'est étonnant. Même l'avocate ne comprenait pas pourquoi je me retrouvais avec un statut spécial à mon désavantage. Je n'avais juste qu'à refaire un dossier après tout. des dizaines de photocopies. Tellement facile les photocopies, les timbres, les lettres, les coups de fil. Mais c'est sûr, comment n'y avais-je point pensé? Je suis punie aussi. Voilà, c'est simple. La mère aussi, elle est punie. Plus punie que le père. Pour la première visite, Lara m'a conduite avec sa voiture une demi-heure à l'avance. Nous attendons dehors, debout. Je la laisse partir rendre visite à l'association des familles, à 3 minutes à pied, dans une ville désuète. Pour nous, celles et ceux qui attendent, il n'y a pas de siège. Pour les mamans et leurs bébés, les pères, les grands-parents, les sœurs, les frères, les tout-petits-enfants, les handicapés, les vieillards, il n'y a rien que le trottoir, sans abri contre la pluie. Il n'y a rien qui indique que c'est un lieu d'attente. Et pourtant, chaque jour, des dizaines de personnes se rendent sur ce bout de ciment afin d'entrer dans la maison d'arrêt. Beaucoup d'angoissés, de malheureux, de peu chanceux, de sans instruction, de sans sourire, d'oubliés. Ils viennent et reviennent. Dans un consentement muet, nous laissons passer les plus âgés, les plus vulnérables. Les mamans sont dans l'obligation d'entrer avec leur bébé dans les bras, car les poussettes sont interdites. Ici, il y a des caméras partout. Donc, les choses laissées sur le trottoir, on ne les vole pas. Ben oui, évidemment, je n'y avais pas pensé, naïve que je suis. Seuls les parapluies ont un droit d'entrée. Ils ont même un gros pot exprès pour eux à l'entrée. C'est magnifique, une orgie de parapluies. Les visiteurs, par contre, n'entrent que par groupe de 5, ou 4, ou 3, selon. En échange de ma carte d'identité, on me prête une clé de placard et un numéro de parloir. Les placards ressemblent à ceux des piscines municipales. Je dois y laisser mon sac, mon téléphone. Je choisis de garder ma veste. Toujours peur d'avoir froid, même l'été. Ensuite, il faut poser les affaires sur un tapis roulant, comme dans un aéroport. Je m'en mêle les mains entre les vêtements que je garde sur moi, comme mon pantalon, et les choses que je dois faire passer sur le tapis, comme ma ceinture. Donc, j'enlève ma ceinture et je passe sous le porche sonneur. Et là, ça sonne. On me refait passer plusieurs fois. C'est la barrette qui retient mes cheveux. Adieu, coiffure. Ce n'était pas une lime, ni un revolver, ni un couteau, ni une seringue. Une simple barrette. Me voilà dans le sas. Je récupère maladroitement mes affaires personnelles. Puis, je dois ouvrir une porte afin de me retrouver dans une salle d'attente. Les autres sont déjà là, assis sur des sièges, fixés au sol. Prisonniers, eux aussi. Il y a un large banc central qui fait penser à ceux des musées pour contempler les œuvres. Sauf qu'ici, point d'œuvre. On peut contempler l'intérieur de son âme ou bien la gentillesse de la voisine. Il y a de la communication en ce lieu. Il y a des enfants qui jouent, qui font des bêtises. Il y a les mamans dépassées par la vie. Il y a aussi des traces de malheur sur des visages, de la fatalité au-dedans des mots qui passent. Nous attendons. Nous nous sourions. Du moins, dès que j'y pense, je souris. Pourquoi ? Pour mettre du soleil là où on lui interdit l'entrée. J'ai sûrement l'air idiot. Les autres se demandent probablement comment je peux sourire ici. Mais cela me donne du courage et me nourrit. Les muscles de mes zygomatiques changent le dedans de mon humeur, donc en prenant le parti que c'est communicatif, peut-être que ça soulage le climat intérieur des autres aussi. Nous attendons encore. Il n'y a pas de poignée ou de porte. Je viens de m'en apercevoir. Une femme avait oublié sa ceinture sur le tapis roulant. Elle a dû frapper pour que quelqu'un lui ouvre. Nous aussi sommes prisonniers à ce moment-là. C'est un aperçu de la chose que vivent ceux que nous allons visiter. Une aide à la pensée compassionnelle qui me servira à communiquer avec mon fils. Une poussière de barreau. Je ferme les yeux et j'expire. Je fais ce que je sais faire. Les silhouettes bougent devant moi et je demeure calme ou triste ou figé. Les visiteurs discutent. Il y a beaucoup de mouvements. Une vie infiltrée, rapportée de l'extérieur, de l'extramuros. L'autre porte s'ouvre, enfin, et le gardien apparaît. Je me positionne derrière les autres. Nous traversons une cour goudronnée, ceinte de hauts murs, surmontée de fils barbelés. Je regarde là-haut. Comme c'est étrange. Dans les ateliers de théâtre que j'organise pour les enfants, j'ai l'habitude de proposer un jeu. J'aime, je déteste. Pour donner l'exemple, je dis « Je déteste les fils barbelés ». Et chaque année, un enfant me demande « Qu'est-ce que ça veut dire, barbelé ?» Et moi d'expliquer que c'est du fil de fer avec des piquants qu'on voit dans les prisons. « Ah oui, ah oui !» disent les enfants du cours de théâtre. Nous traversons la cour, puis nous longeons un énorme et large couloir, dans un ton jaune, vieilli, loin du jaune de Naples, cher aux peintres. Une grande grille, aux barreaux jaunes, toujours, et très épais. On nous fait passer, les uns derrière les autres. Voici la salle des parloirs, aux fenêtres bien trop hautes et bien trop géantes. Tout est ancien. Construction de la prison en 1850 environ. Ancien poteau bleu ciel, cloison de plexiglas de 1,90 m de hauteur qui forme les box pour s'installer. Meubles en plastique usé. Tables et tabourets aux pieds qui s'écartent comme pour nous faire des croche-pieds. On ne sait jamais que ça puisse faire rire quelqu'un. Je me plante dans le box numéro 2 et j'attends, debout. Je tiens mon écharpe de soie turquoise. Mes doigts ressentent de la douceur. Je n'aperçois pas de suite la porte du fond à gauche de mon regard qui s'ouvre. Entre un jeune homme, puis un autre. Puis d'autres hommes, des têtes rasées, des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux raides et droits au-dessus de la tête, parfois une queue de cheval. Et puis c'est lui, le voilà, mon fils, aux cheveux qui ont poussé. Il est là. On se regarde et on s'embrasse avec les bras et sur les joues et avec l'écharpe. Il y a si longtemps. On s'assoit, on se dit des choses. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Les paroles sont maladroites, comme si nous en avions perdu l'un et l'autre, l'usage ou l'habitude. Mon premier parloir, d'avant le jugement. Il a soif. À gauche, à l'entrée du parloir, il y a un distributeur d'eau. Sans gobelet, évidemment. À cette machine propre et moderne, on note sa fonction simple et nécessaire lors d'un moment d'émotion intense ou d'anxiété, voire d'angoisse, qui naît dans le cœur des humains présents en ce lieu. Ici, c'est une règle. Ce qui devrait fonctionner ne fonctionne pas. La prochaine fois, il faudra apporter ses propres gobelets. C'est cher, les gobelets. En attendant, on pourrait se servir du creux des mains. Cela donnerait une impression campagnarde, bucolique, avec beaucoup d'imagination. Un peu de poésie, peut-être. Pour l'instant, le creux des mains, nous les donnons mutuellement. Nous les gardons serrés, les mains. On se dit quoi ? Qu'on s'aime. Le temps passe. Une heure, ça passe. Une heure, c'est fini. On se lève, on s'embrasse à nouveau. Il faut le faire, s'embrasser, en profiter. On repart chacun et chacune de son côté. Lui, vers sa cellule, moi, vers le trottoir, l'air du dehors. Chacun gardera jusqu'à la prochaine fois les impressions du rapprochement bref, les hésitations dans les mots, les regards timides et parfois fuyants, ou au contraire, trop insistants de ma part, car je veux boire de mes yeux mon fils. Couloir à nouveau, carrelage moucheté des années 60, sur du jaune de Naples usé, sans soleil. Cours au barbelé encore. Une autre salle latente, les ouvertures dans l'autre sens. Nous attendons assises et assis. Le temps de fouiller les prisonniers de l'autre côté du bâtiment, au cas où on leur ait refilé un objet, ou du tabac, ou de la drogue à fumer, ou une seringue, ou quoi ? Un biscuit ? Une orange ? À la sortie, le gardien, jeune et timide, me rend la carte d'identité. Je lui rends le numéro en carton plastifié et ma clé de placard. Je reprends mes biens fébrilement. Me voilà sur le trottoir, égaré. Les pieds avancent tout seuls vers le fleuve. Je découvre l'heure qui rend l'eau dorée, grise et verte. L'heure d'avant le soir, où parfois le soleil fait des clins d'œil au travers des feuillages des arbres. Il y a une troupe de canards, ivres de liberté. Leur voix exprime ce qui est vivant. Ils sont drôles, je les envie. Je me dirige vers l'intérieur de la boucle, via le pont battant. Large, animé, il enjambe le fleuve dont les effluves atteignent mon esprit. La rambarde supporte des dizaines de cadenas d'amoureux. Ces amoureux qui croient en l'amour unique et constant entre un homme et une femme, entre deux femmes, entre deux hommes. L'amour universel existe-t-il ? Pourquoi utilise-t-on le même mot « amour » ? L'amour des amoureux se situe entre deux personnes. Seulement, l'amour universel, c'est quand on aime tous les humains, et les animaux aussi peut-être, et les arbres, et les océans. Tout cela est vaste. À côté, deux petits amoureux étriqués, ce n'est rien du tout. Pourquoi donc ? Est-ce le même mot ? Pourtant, cet amour-là, avec un gros cœur rose, intéresse tant de gens. Mes réflexions se noient avec les algues souples du fleuve. Je cherche un escalier, juste pour découvrir un escalier. Il faut pousser une porte et regarder. Un, tout en bois sculpté, grimpant trois étages, en trois paliers extérieurs. Peut-être un moyen d'accéder au paradis. Mon appareil photo est un compagnon fidèle et m'aide à imprimer mes errances. Dans la boucle, il ne faut pas hésiter à ouvrir une porte cochère. Souvent, je me retrouve seule dans le silence d'un couloir ou d'une cour. Et je me recentre. Je laisse mon cerveau inventer d'autres choses, des vues nouvelles. Puis je rentre au quartier, celui de Fred et Lara, ses amis qui me logent, conversent avec moi, me parlent de mon fils et exposent leur point de vue, leur expérience avec lui, leur amitié indéfectible envers lui. L'acharnement de Lara à vouloir le sauver de son mal-être, comme si elle était sa grande sœur, alors qu'elle est sa grande amie, compagne de Fred, le grand ami de mon fils. Tout en eux est amour, dévouement, réflexion, recherche de solutions. Dans cet appartement désuet, cocon de mes insomnies, je perds mes mains dans la fourrure des chats, Pampan et Billy. Le gros Pampan dort avec moi parfois, lorsqu'il daigne se laisser aller sur mon lit. Cela me plaît beaucoup. En bas, dans la rue, on retrouve toutes sortes de gens. Une multiplication de boutiques. Le restaurant pakistanais, duquel les enfants faisaient la java dehors toutes les nuits de canicule. La vendeuse de vaporettes. L'assureur, le voisin qui demande à ce que l'on tienne la porte du bas de l'escalier, car si elle claque, sa vitrine se brise. Le fameux bistrot où l'on sert l'absinthe à l'ancienne mode, comme en 1900. Seules les doses légales ont changé. Le salon de thé maghrébin, offrant ses bons gros gâteaux tout sucrés et gras à souhait. Le bar à dessert, le restaurant africain subsaharien qui sert d'énormes assiettes de foutou à la viande. La créatrice de robe vintage avec ses très grands cheveux blonds. Le peintre de paysages franc-comtois. Le vendeur d'instruments de musique. Le rôtisseur de kebab. La pâtisserie française. L'épicier arabe qui vend des trucs français. Le bazar extraordinaire, celui dans lequel je trouve d'anciennes petites assiettes de porcelaine bleue d'Allemagne, des fourchettes de l'armée US et des centaines de choses différentes et vieilles dont on se demande si elles sont utiles ou simplement si elles sont jolies. Et puis la poste, la pharmacie, le bureau de tabac, la quincaillère, la tatoueuse et le brocanteur chic. Quelle rue ! C'est une ville à elle seule. Elle a la capacité de tout offrir aux passants sous le mode de l'authenticité. Ainsi mes errances deviennent des petits voyages aux quatre coins des imaginaires. J'habite le sud de la France. Nous sommes au mois d'août et je n'ai pas de nouvelles de mon dossier de droit de visite permanent, reformulé et envoyé à nouveau à la maison d'arrêt le 14 août. Je téléphone à tous les numéros de l'établissement. Les premières personnes contactées n'étaient pas au courant de mon dossier. Beaucoup de personnel était en vacances. Et puis enfin, je suis tombée sur une remplaçante. Donnez-moi son nom. Oui. Attendez. Je regarde dans la pile de dossiers. Ma collègue est en vacances. Attendez. Oui. Ça y est. C'était le dernier sous la pile. Effectivement, il y a l'autorisation de votre visite. Et effectivement, vous avez un droit de visite permanent. Oui. J'appelle le personnel du parloir. Je leur fais passer le dossier et vous pouvez les appeler dans 10 minutes. Bonne journée, madame. J'ai enfin pu prendre un rendez-vous grâce à cette femme. Ceci se passe en France, dans un établissement pénal et public, sous une égide extrêmement paternaliste, où il n'y a pas de prise en considération de la position difficile des familles, ni des prisonniers loin de leurs proches. Le personnel se comporte la moitié du temps comme s'il était convenu d'avance qu'il faille mettre des bâtons dans les roues de ceux et celles qui attendent les déroulements normalement fluides des processus administratifs. L'empathie n'y a aucune place et on ne perd pas de temps à être bien intentionné. Ils ne savent pas peut-être, ou bien on ne leur a pas appris. Sont-ils inaptes ou bien sont-ils cruels au point d'en rajouter ? Cela semble probablement amusant. Ou bien ils s'en foutent complètement. Cela me semble plus adéquat. Une paye bien assurée, pourquoi s'en faire pour les autres ? Ce personnel administratif, ici, a le pouvoir et ne se retient que rarement de nous en donner les preuves. Le personnel se joue des êtres humains et on pourrait le croire jusqu'à y prendre plaisir peut-être. Quand il n'y a pas d'explication plausible, on peut tout imaginer. De mon sud, je suis partie en train le 21 août pour deux parloirs, le 22 et le 23. Aujourd'hui, le trajet que j'effectue en voiture pour ne pas prendre l'autoroute de la vallée du Rhône, me rallonge le parcours. Mais j'évite de payer cher, d'avoir trop de circulation, de passer le tunnel. Je ne sais même pas s'il existe encore ce fameux tunnel de Lyon. Et surtout d'assister à un défilé de laideurs paysagères. Au contraire, je passe par le pont de Millau, traverse l'Auvergne et la Bourgogne. Ces routes, bien que fatigantes quelque part, sont charmantes et me donnent du plaisir visuel. L'été passé, les trains ne faisaient pas grève. Je sais que ce ne sont pas les trains eux-mêmes qui font grève. Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Durant tout l'hiver qui s'annonce, les trains ne rouleront que de manière extrêmement aléatoire. Je profite de filer sur les routes nationales seule. Ma voiture est mon cocon et mon appareil photo mon ami. Parfois, je tourne sur une route départementale rien que pour voir, afin de découvrir une belle image comme on feuilletterait un livre, une nature caressante, un ciel décoloré, un phénomène quelconque qui me transporterait et que je figerais en souvenir. Quelque chose que je regarderai un long moment au sortir de la voiture, que j'intégrerai en conscience afin de nourrir mon esprit d'un sujet positif. Juste un moment où le furtif nuage passerait, où l'herbe serait couchée par le vent, où une maison recevrait une lumière jaune issue d'une pluie qui ne cacherait pas le soleil. Juste un souvenir pour moi, ainsi qu'une photographie unique durant ce voyage obligé. Les photos ne sont pas obligées, ni le parcours des marais, ni ceux traversant les villages vieux de leurs pierres et de leurs pisées, ni les villes, celles dans lesquelles je m'égare parfois. Mon fils m'a fait une demande, et je ne peux l'honorer. Ce qu'il m'a demandé d'apporter le lendemain, je ne l'apporterai pas. Son état de craving le pousse à me demander l'impossible. Pendant sa demande, je me suis déstabilisée sous les néons des parloirs. J'aurais aimé m'envoler par le très haut plafond, ne plus sentir mon fils en face de moi. Pas dans ce rapport-là. L'intention sortie de sa bouche n'était pas en accord avec l'être que j'ai connu, celui que j'ai élevé, embrassé, caressé, nourri avec tant d'attention, tant de joie, tant de générosité. J'aurais préféré ne plus le sentir en face de moi. Pas dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Je ne veux plus revenir, ni être prisonnière de sa demande. Alors que lui est prisonnier de son état mental, prisonnier de ses médicaments, prisonnier de son corps, prisonnier de sa geôle, incarcéré au-dedans des murs, avec des horaires stricts, des espaces rétrécis. Le lendemain, je suis revenue, les mains vides de cette chose qu'il voulait, vides de cette chose-là, mais remplies d'amour pour lui. Nous nous les prenons les mains, nous nous les serrons, nous nous regardons. Nous avons mal, il a mal, et j'ai mal pour lui. En sortant, je raconte la scène aux amis de 30 ans. J'ai le double de leur âge. Ils m'emportent au restaurant coréen. La nourriture caresse mon palais, les saveurs remontent dans mon nez, et je m'apaise. Fred et Lara sont bienveillant. Je retourne à pied dans la boucle, au musée du temps. C'est ici que l'on prend la mesure du passé, de l'avenir et du temps qui passe. Les donneurs de temps ont inventé toutes sortes de tic-tac, des tic-tac en bijouterie, légers comme des petits insectes, des tic-tac enfermés dans des comptoises, à la voix grave d'un cœur qui bat lentement, comme pour allonger ce temps qui s'étire et se plombe dans la grosse boîte en bois. Il y a aussi un tic-tac très compliqué sur une montre nommée la Leroy Or. Elle fut la montre la plus compliquée du monde, dit-on. Ici aussi se trouve le pendule de Foucault. C'est très chorégraphique, d'une danse mystérieuse que je découvre à la manière de Cunningham. Mathématiques. Je préfère les sabliers, bien plus poétiques, couleur du temps. Couleur dans le sens de ce qui coule, de ce qui passe, de ce qui fuit ou de ce que l'on ne maîtrise pas. L'eau coule, le temps coule. En prison, il coule comme le prisonnier qui vacille dans son antre, qui oublie le nord, oublie la vie dehors. « As-tu un calendrier ?» lui demandai-je. « Surtout pas, » me répondit-il, « je ne suis pas apte à observer tout le temps qu'il me reste à vivre ici. » Le sablier laisse couler le temps de visu. Les horloges font entendre leur tic-tac. Le tic-tac, on est obligé de l'entendre, de le subir. Mais le sablier, on doit le regarder. Sinon, on ne sait pas que le temps passe. Elle est insistante, l'horloge, agaçante. Le mot « couleur », au sens de celui qui fait couler, n'existe pas en français. De ce fait, il me manque. Il y a des métiers « couleur de temps », gardien de prison, berger, homme ou femme de religion, caissière, on peut en décliner d'autres. La couleur du temps passé en prison n'est pas rose. Nous sommes en confinement hors de prison, dans nos maisons. Une maladie a envahi le monde et nous sommes en confinage. Ce mot a quelque chose de plus fondu, de plus humain, couleur confondue. Je vis à l'intérieur. Comme mon fils, une fois sorti, peut-il vivre à l'intérieur de la maison de son père, juste après avoir été libéré? Quelle situation inouïe! Libéré, mais confiné. Son père est parti le chercher en début de cette période absurde. Pendant les premiers jours d'emprisonnement, on se posait encore la question. Va-t-il sortir? Quel jour exactement? Il n'y avait aucune confirmation, ni écrite, ni par téléphone. D'un côté, on me disait « Tout est gelé dans l'établissement. » Pour être certaine, j'ai dû à nouveau appeler tous les postes de la maison d'arrêt. Enfin, une femme, encore, m'a assuré que la sortie du fils se ferait. Oui, lundi 23 mars à 11h. Peut-être que les femmes possèdent plus d'empathie. Finalement, le fils est sorti une semaine après le début de ce confinage dû à ce satané virus. Il s'est installé dans le studio attenant à la maison de son père à 30 km de mon village. Je n'avais pas de nouvelles. Tel père, tel fils. Taciturne comme des nuits sans vent, sans chat, sans rat, sans chouette. De mon côté, ai-je accompli ma mission? Sur mes trajets, je ne me pressais pas. J'avais organisé des allers-retours entre la Franche-Comté et l'Occitanie de façon régulière, chaque mois et demi, suivant le rythme des vacances scolaires de mon travail. Cela pour 2 jours consécutifs de parloir. Nous n'avons pas le droit à plus de 2 parloirs par semaine. C'est la loi. Mon itinéraire prend, parfois, des allures de périple. Je fais plusieurs étapes. Je dors en Bourgogne chez des parents, ne pouvant pas me payer un hôtel de toute façon. Et puis un hôtel. C'est pratique, mais pas sympathique. Ça manque de relationnel. Je programme des arrêts pour pique-niquer et, afin de me faire croire que j'accomplis un voyage agréable, je me surprends à bifurquer sur de minuscules départementales qui risquent de me mener dans des mondes inconnus. La France est championne de la diversité des paysages. Vallons, vallées, saules nues d'hiver, fleuves, rivières, rues et ruisseaux, ciel géant, nuages informes, lumière de crépuscule, éblouissement de mi-temps du jour, maisons grosses et bien plantées, aussi vieilles que les reines d'autrefois, si elles vivaient encore. Mais en cocon, devant lesquels je me prends à rêver que je pourrais y habiter comme si je faisais partie d'une autre histoire. Une histoire de femme tranquille, s'occupant des bestiaux ou tricotant au salon ou bien rentrant de son travail pour retrouver, au creux du cocon, un divan géant. Ici, je sors de mon véhicule en m'étirant afin de contrer la position recroquevillée de conductrice. J'étire mon corps vers le ciel, plante mes pieds dans le sol moelleux de la Bourgogne. Me retrouvant seule, entre ciel et terre, au milieu du monde. Là, je trouve un bistrot de village dans lequel j'entre pour y boire un café. Homme debout au bar qui me regarde. Une étrangère, une touriste perdue, pense-t-il peut-être. Aujourd'hui, il y a deux femmes, habituées apparemment. L'une d'une cinquantaine d'années, après avoir demandé une bière à travers sa mèche d'un blond grisâtre, parle à son amie de sa santé aggravée par sa tension artérielle. L'amie qui répond que son ex-mari avait la même chose et qu'il en est mort il y a 2 ans. « Souviens-toi, Edwige, souviens-toi !»« Fais attention, Edwige !» Et l'Edwige de me regarder brusquement pour me dire « On n'a plus l'âge maintenant. On prend un autre chemin, c'est pas vrai, madame ?» Je reste dans la surprise, un peu subjuguée, que l'on me prenne ainsi à partie. Je ne sais trop quoi répondre. Je dis « Oui, vous avez raison, il n'y a plus l'âge. » Tout en voulant sembler empathique. L'autre femme commande une autre bière. Ses cheveux sont courts, comme la plupart des femmes de 50 ans qui ont décidé de ne plus ressembler à rien. Cheveux courts, pull long et chaussures très larges. Pour les chaussures, je suis d'accord. La plupart des chaussures féminines sont des instruments de torture, au même titre que les corsets d'autrefois, au même titre que les fameuses gaines que portaient nos mères. Mais pour les cheveux, c'est automatique, on les coupe. Pourquoi ? En attendant, je bois mon café que l'on m'a apporté avec gentillesse. J'ai souri à la serveuse, qui a l'air d'être aussi la patronne. Le sourire effectue une détente à l'intérieur de moi-même, comme une méditation qui aide à la vie difficile. Je pars faire pipi aux toilettes des années 60 et je déambule vers ma voiture, ma deuxième maison. Ma voiture m'appartient, ma maison je la loue. Ce n'est pas la même chose. L'arrivée dans la fameuse ville de Franche-Comté se fait toujours en traversant une longue banlieue bruyante et laide qui n'en finit pas d'afficher ses désagréables quartiers. D'un côté de la ville, la forêt avec le lynx, de l'autre, celui par lequel j'entre. Les constructions modernes qui s'étendent vers le sud-ouest, heureusement, c'est toujours tout droit. Pendant 20 minutes, jusqu'au parking des remparts, juste tout près de la boucle, la charmante boucle, le cocon citadin. Je débarque chez les amis avec ma grande valise. Fred ne m'a jamais fait de réflexion sur ma grosse valise. Mais j'ai su que Lara, qui revenait un jour de voyage, avait un bagage aussi volumineux que le mien. En bas, dans la rue, le quartier offre sa générosité de vie, surtout pendant l'été. Un homme chante à tue-tête en marchant. Il n'a pas de lieu où dormir, mais il chante l'opéra. Le jour, la nuit, cet homme chante. Au début, c'était joyeux. Ensuite, nous rions. Mais au bout de quelques jours, on n'en peut plus. On voudrait qu'il se taise, parce que les rues hautes renvoient le son de sa voix jusque par-dessus les derniers étages et les toits d'ardoise. Par-dessus le ciel et jusque dans les appartements. Il nous empêche de dormir, l'homme qui chante. Ici, dans ce paradis d'amis, au milieu du parquet craquant, des murs inefficaces pour parer le bruit de l'aspirateur de la voisine. Les chats font leur cinéma. Chat qui miaule, qui demande à sortir sur le palier. chat qui miaule, qui demande un filet d'eau dans la baignoire parce qu'il s'ennuie. Chat domino, tout noir et blanc, et Lara qui parle au chat, à moi. Toujours j'apprends de ses conversations. Elle parle de son travail à l'hôpital psy des enfants. C'est difficile. Il n'y a pas assez de personnel, pas assez de lits. Toujours le même problème depuis des années. Fred se montre plus réservé. Si je veux savoir quelque chose de lui, je dois le lui demander. Pendant l'été, nous avons pris l'habitude de faire du tai chi ensemble au parc près du fleuve. Ça sent la terre et l'eau. Je me sens bien avec ma pratique depuis de nombreuses années. J'ai l'art de zapper le quotidien ainsi que de me concentrer sur mon corps. Il y a des reflets de ciel qui peignent l'eau en passant sous les ponts de manière magique. Parfois, tous les trois avec le fils, nous venions nous allonger sur cette terre pour lire chacun son livre. Un bonheur si furtif, mais qui me donnait l'idée que cela pouvait exister, d'être heureuse en regardant mon fils. Cela, c'était avant. Mais aujourd'hui, ce jour d'été sans le fils, Fred se révèle. Il pratique un autre art martial vietnamien, externe, très beau, dans les gestuels rapides. Avec moi, il s'astreint à la lenteur. La lenteur aide à la conscience. La conscience, ça peut servir à tout moment. Conscience du corps et celle de l'esprit aussi. J'avoue que cela m'aide pendant les visites dans le monde carcéral. Fred et Lara, un couple tout désaccordé, tout en accordéon. L'un souffle, l'autre pas. L'un se tait et l'autre babille. C'est une mosaïque d'humeur, une musique d'orchestre à tous les deux. On reste à les écouter. C'est ici que je prends mes forces, chez eux, les amis. Là que je me repose, que je ris, que je bois du vin, que je me ressource, que j'angoisse aussi parfois, à cause de moi, de ce que je suis, une véritable inquiète. Mais je me soigne, malgré l'impermanence du bonheur, et l'impermanence de toute vie. Avoir un fils fragile, c'est avoir de la souffrance avec lui, ou à côté de lui, ou bien encore si loin de lui. Ne pas laisser s'exacerber les sensations. Au début, je prenais le train. C'était l'été. Au début, j'attendais à Lyon-Pardieu, pendant une heure, le train régional. Foule, foule. Un piano là-bas dans le coin. Je vais m'asseoir sur une barre à hauteur des mollets, presque accroupie. Les jambes défilent, les enfants défilent. Jambes en blue jean, jambes en toile légère, jambes en tongue, en short, en bermuda, en robes colorées et longues, en sarouel. Ça marche de partout. Et sous les tableaux électroniques, silhouettes serrées, les unes contre les autres, sans faire un pas. Des statues, des gens qui consultent leur téléphone ou bien qui regardent dans le vide, attendant que le tableau affiche une nouvelle information. Un garçon joue un air des Beatles, Yellow Submarine, un sous-marin pour aller sous la foule qui se trouve déjà au sous-sol. Au calme, ça serait bien. Ensuite, il y a eu les grèves de train, les gilets jaunes et plus tard, le colis de Noël. Cela a commencé par une notification de procédure qu'il fallait suivre si la famille désirait, non pas envoyer, c'était interdit, mais déposer un colis de Noël. En fait, non, pas un colis, mais un sac. Un gros sac de course en plastique de Noël. Le poids maximum devait être de 5 kilos. Nous avions pris la décision d'offrir chacun la moitié, son père et moi. Le père devait déposer sa moitié lors de sa visite en décembre. Ensuite, je suivais en déposant la moitié de mon choix. Mais suite à un renseignement flou sur la notification, c'était un texte recomposé avec plusieurs bouts de photocopies anciennes où il n'y avait aucune précision sur la manière de procéder, j'eus un doute et décidai d'appeler l'association des familles. Alors, on me répondit « Attention, il faut alors une dérogation spéciale. » Cela n'était aucunement mentionné sur le texte non explicite de la maison d'arrêt. Et le père était déjà parti avec le colis. À la visite, on lui a confirmé que s'il déposait sa moitié de colis, personne d'autre n'aurait le droit de déposer l'autre moitié sans dérogation. Le père, après mon coup de fil, a donc déposé son sac chez Fred et Lara, nos anges gardiens. Alors chez moi, je me suis mise à préparer le colis, enfin le sac plutôt, dans des sacs transparents en plastique, comme c'était conseillé, introduit les denrées à l'intérieur pour qu'elles soient visibles, ainsi qu'une calculette dans son emballage hermétique, ouvrable seulement avec un objet contendant. Sous la transparence, chocolat en attend d'être regardé, palpé, peut-être, ou volé, qui sait. Surtout ne pas afficher de marque, surtout exécuter les consignes comme il se doit. Je glisse un livre pour apprendre à faire des tours de magie avec un jeu de cartes que j'insère avec. Je regarde mes sacs de congélation en plastique transparent sur la table de ma cuisine. Il manque quelque chose. Je vais chercher un morceau de tulle dans mes affaires de théâtre et je fais des rubans transparents que je scotche en jolies ganses sur chaque petit paquet. Je ne les attache pas, au cas où ils voudraient fouiller à l'intérieur, ce qui ferait que les nœuds seraient défaits et n'auraient plus l'idée de cadeau que je voulais créer. Un plumetis de semblant de joie, une aurore subjective vers l'espoir, une inspiration de femme avide de liberté. Quelque chose qui ne soit pas illégal, un truc féminin dans ce monde d'hommes. C'est reparti. Voiture, autoroute, route. Je dors pour ma première étape chez mon neveu en Bourgogne. Nous sommes le 24 décembre. Ils vont réveillonner ailleurs et l'on me laisse tranquille, seul, devant la télé. Tant mieux. Cela m'arrange. Ouf ! Enfin, je suis triste évidemment. Comment ne pas l'être ? Seulement maintenant, je m'attends toujours à tout. Cela me protège d'une déception ou d'un événement négatif. Chacun possède sa propre stratégie et telle est la mienne. En fait, il y a quelques années que je l'ai mise en place pour ma vie. J'essaye de ne pas avoir d'espoir. Comme cela, je souffre moins. Et s'il y a une chose positive qui se met en place, je suis surprise et heureuse. Est-ce inhumain, ce comportement ? Au contraire, humain. Trop humaine je suis, trop sensible, trop ceci et trop cela. Souvent inadaptée à ce monde incohérent. Et je ne sais pas encore, à cette date que 3 mois plus tard, ce monde-là s'avérera encore bien plus incohérent. Dangereusement incohérent. Le lendemain, après un voyage effectué seul toujours, le jour du 25 décembre 2019, seul au milieu de la solitude, seul et encore seul au milieu des routes, encoquillé dans ma voiture, après avoir visité les arbres nus sous les rayons pâles orangés du soleil d'hiver, après avoir photographié les inondations des prés de Bourgogne à cause de trop de pluie, ce jour-là, justement, il pleuvait. Et grâce à une intuition entrée subrepticement dans mes pensées, ce jour-là, arrivé en ville au cœur du Doubs, après la nuit chez les amis, ce jour-là donc, je décidai de partir 3 quarts d'heure plus tôt vers le parloir, au lieu d'une demi-heure d'avance. Le temps de mon parcours à pied, au bord du fleuve, 1 quart d'heure en plus, de la maison de Lara vers l'établissement. Me voilà donc avançant sur le chemin, en plancher, longeant la grande eau, tirant mon chariot de course vert pistache, rempli du grand sac en plastique, lui-même rempli de tous les petits sacs transparents que j'emmenais à mon fils dans sa prison pour Noël. J'y avais rajouté le sac de livres offert par son père. je traînais mes 5 kilos sur mon chariot à roulettes. Il pleuvait et il ne faisait pas chaud. Je tenais au-dessus de ma tête le grand parapluie transparent de Lara. On m'étouffait dans un gros manteau de laine sombre. Peut-être qu'on me prendra pour un colis de chocolat, moi aussi. Ainsi, je pourrais entrer dans la cellule interdite. Arrêtons les fantasmes. À l'approche de la maison d'arrêt, traversant la rue afin d'atteindre le couloir salle d'attente, la porte de l'établissement s'ouvre. « Quelqu'un a-t-il un colis ?»«
Oui, moi !»
je réponds d'emblée, traversant la rue sans cesser d'avancer. Et dans la suite de mes pas, sur le trottoir, j'entrais. Je suis la seule à avoir un colis aujourd'hui apparemment, et la première arrivée. Le gardien, qui semblait novice, que j'ai souvent rencontré, à la voix posée, presque timide et correcte, répondant même au sourire que je lui offre en cadeau de fin d'année. Car ici d'habitude, on ne sourit pas. Il fouille, sort chacun des sacs. « C'est bien, dit-il, on voit tout. »« Ah non, ça, ce n'est pas permis, me dit-il en me montrant la calculette. Ça peut s'acheter à la cantine extérieure. » Bon, tant pis, si ça peut s'acheter à la cantine extérieure. Je la pose dans mes affaires, que je ne peux pas encore poser dans le placard à piscine, car finalement, ce n'est pas encore l'heure d'entrer. Je regarde le sac partir, le cœur serré, et il me faut retourner sur le trottoir. Il me reste 40 minutes à attendre. Non, vous n'avez pas le droit d'entrer votre chariot. Seulement le parapluie. Seulement le parapluie, pas le chariot. Où vais-je le mettre? Allez le poser à l'association des familles. Ah oui, d'accord, j'y vais. En arrivant à la petite vieille maison de l'association des familles, on me demande à quelle heure je reviens le chercher. Je sors à 16 heures, je réponds. Impossible, on me dit. Nous fermons à 16 heures. Laissez-le devant l'établissement. Je suis agacée, contrariée. Je me sens isolée, incomprise, seule. Quand ces simagrées vont-elles se terminer? Où se situe l'importance de la vie? Pourquoi embête-t-on les gens ainsi, en leur pourrissant chaque minute de leur vie? Est-ce calculé d'avance? Est-ce dû à des esprits étriqués, ne sachant élargir leur champ d'appréhension? Est-ce dû aux lois censées améliorer les auteurs des fautes accomplies, ainsi que leur famille? Moi aussi j'ai une punition, parce que mon fils n'a pas respecté les lois de la cité, parce que l'école n'a eu aucun regard sur lui, ni sur ses difficultés de vivre. À mon retour, des jeunes femmes sont en train d'attendre sur le trottoir goudronné. Je leur demande conseil pour déposer mon chariot devant, dehors, sans qu'on me le vole. La réponse est évidente. Aucune chance qu'on me le vole. Il y a des caméras partout. Évidemment, je n'y avais pas pensé. Voilà mon chariot abandonné. Et là, je pense à ce jour où je faisais les 100 pas, allant, revenant, 20 fois devant la façade. J'étais donc filmée. Comme c'est bête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui attend. Nous entrons par petits groupes comme à l'habitude. Des femmes sont un peu pressées. Des hommes sont un peu plus attentifs, comme si eux avaient plus de temps, comme s'ils étaient nos aînés, exactement comme dans une société patriarcale, là où nous vivons depuis toujours, nous, les femmes. Je me positionne dans un petit groupe à la fin. Dans ce rituel d'enchaînement, c'est le cas de le dire, de petits gestes, il est rare que je ne m'en mêle point la tête et les mains, et même les pieds. Donnez d'abord sa carte d'identité. En échange, nous recevons le numéro de parloir ainsi que la clé du placard de piscine. Je pose mon sac et mon écharpe dans le casier. Je pose mon manteau et ma ceinture sur le tapis roulant, me demandant chaque fois où je dois poser mon numéro ainsi que la clé. Tous ces gestes semblent être évidents pour les autres. Mais problématique pour moi. En passant les sas de l'aéroport, ça sonne. Voilà, ça sonne. Je recule, je repasse, ça sonne. C'est peut-être ma barrette, me dit le jeune de tout à l'heure. Je me décoiffe, cheveux au vent. C'était bien cela, ma barrette. Je m'accroche à mon foulard turquoise, celui qui embrassera mon fils bientôt. Je profiterai de l'embrasser aussi. Au revoir, la barrette. J'attends dans la salle d'attente avec les autres, ensemble. Deux femmes se parlent. Ils n'ont pas voulu prendre mon colis. Il fallait arriver plus tôt. Je me mêle à leur conversation. « Vous ne le saviez pas ?» j'interroge. Elle me répond que non, on ne le lui avait pas dit. Il faudra qu'elle revienne le jeudi suivant. 3 quarts d'heure plus tôt, au lieu d'une demi-heure plus tôt. Je me demande alors quel est l'ange qui m'a sommé, par je ne sais quel miracle, de partir plus tôt aujourd'hui. La dame était toute triste, confinée dans sa fatalité, obéissant humblement à toutes ces stratégies administratives faites pour que les employés se gardent d'avoir trop à en faire. Surtout aussi que c'est bientôt les fêtes, place au réveillon. Quelle chance d'avoir eu cette intuition qui m'a sauvé la mise. Les enfants s'agitent aujourd'hui dans la salle d'attente. Ils courent à droite, à gauche, s'amusent de leurs bêtises. Les mamans grondent, les enfants continuent. Les enfants sont des enfants, même ici. Ils viennent visiter leur papa, habituellement. Sinon, on ne les amènerait pas pour un oncle, un cousin ou un ami. Ils viennent voir leur papa et sont heureux de le voir. Ils ne semblent pas savoir qu'ici, c'est spécial, de la manière dont ils jouent. Mais réellement, dans leur tête, ils comprennent bien. Les enfants captent sans les mots. Nous effectuons la traversée de la cour sans parapluie. Il pleut, mais j'ai mon chapeau de laine. Cour rectangulaire, ceinte de hauts murs, en barbelés tordus. Nous sommes un troupeau avec un gardien. Encore l'énorme porte d'entrée, le long et large couloir au vieux carrelage jaune de Naples délavé, et encore, au bout de la grille, aux épais barreaux, jaunes aussi, peinture, écaillé. La grille passée, quart de tour à gauche, puis la salle au parloir, puis le box transparent sous les très hautes grandes fenêtres. Je dispose 2 tabourets en plastique. Il y en a 3 encastrables, de part et d'autre, d'une espèce de table en plastique aussi, avec des pieds qui s'écartent. Comme ça, elle nous fait des croche-pieds dans cet endroit exigu, et c'est drôle si on tombe. Sauf que l'autre fois, un homme est tombé et les figures n'ont pas ri. Cela a créé des regards effarés, les yeux pleins de drame. Je lance mon regard. Il arrive, mon fils, devenu homme, si grand, si grossi tout à coup. Il n'est jamais le premier dans cette queue-leu-leu de garçons, jeunes pour la plupart et qui ont fauté. Le voilà dodu, lui qui était mince comme un prince. « Je voyais un garçon de 20 ans, avait dit l'avocate. Ses cheveux ont poussé, ils sont mi-longs, avec une frange éparse. Cela le rend encore plus beau. « C'est mon fils, on s'embrasse, on a le droit. Dans 2 ou 3 mois, nous n'aurons plus le droit. Une épidémie va surgir et griller toute velléité de tendresse. » Dans le monde entier. Mais là, maintenant, on ne le sait pas encore. On s'embrasse, on a le droit, en prison, au parloir. Je l'encercle bien de tous mes bras, mon foulard témoin aussi. On parle. Il me dit qu'il m'aidera lorsqu'il sortira. Il inventera des musiques et des décors. J'ai apporté des gobelets pour boire. Mon fils va chercher de l'eau au distributeur. C'est un distributeur très moderne et très propre, en décalage avec le lieu 2 fois centenaire. Nous buvons. Lui tient son verre dans sa main. L'autre main tremble. La fièvre nerveuse sur son visage s'est estompée. je pense à un état amélioré. Il n'a plus accès aux drogues illicites. Mais ne nous illusionnons pas. Il prend des drogues licites, qu'on appelle médicaments. Le sevrage ne l'empêche pas d'être obsédé par le geste, me dit-il, le geste de sa main avec l'aiguille au bout des doigts. J'attrape ses mains et je les tiens dans les miennes. Il se laisse faire. Autrefois, il ne voulait pas que je le touche. À partir de 6 ans, il n'a plus aimé être touché, embrassé. Pendant 15 ans, je n'ai pas pu le toucher. Près du corps, mais aucun effleurement possible. Je me contrôlais, je le regardais, j'espionnais afin de pouvoir le voir. Comme si je pouvais le toucher avec les yeux. Un matin d'été, j'ai entrouvert la porte de sa chambre. Son dos, soyeux et doré, faisait comme une cathédrale de sensibilité auprès du drap épars autour de lui. Ses cheveux longs modelaient un ruisseau brun dégringolant de son épaule. C'était beau. C'était une image interdite, intouchée, impalpable. Je volais l'image, celle de mon enfant. Pourtant, ses mains dans les miennes se laissent attraper aujourd'hui. Elles sont chaudes. C'est bien chauffé, la cellule, il dit. Autrefois, elle jouait de la guitare, les mains. Ses doigts, déliés, donnaient des notes fines, comme de la bruine sonore. Aujourd'hui, il fabrique des placards en carton qui courent le long de son lit à l'étage du haut. Je les colle avec de la pâte à fixe. Ça tient. Je fais aussi des robots avec de la pâte à sel en guise de corps. Pour le moteur, j'utilise celui d'un rasoir électrique que j'ai préalablement décortiqué. Ainsi, je fuis le temps qui s'étale autour de moi avec des barreaux autour et qu'il faut tuer. Tuer le temps, est-ce un crime ? Me demandai-je. Le temps du parloir qu'on n'a pas envie de tuer se termine. Se lever, s'embrasser, reprendre les timbales, s'embrasser encore, se séparer par nos corps, ne pas se lâcher du regard trop vite, se voir encore, de plus en plus éloigné. Il passe sa porte. Je passe ma porte avec les autres, ensemble avec les autres, avec les mamans, les sœurs, les frères, les petits-enfants. Passer dans l'autre sens la grille géante, puis le large et long couloir. Lire les titres des bureaux sur chaque porte qui succède à une autre. En l'occurrence, bureau des écrous. C'est donc derrière cette porte que l'on trouvera la liste des écroués, des prisonniers, des enfermés physiquement, des enfermés mentalement. Écroué. L'étymologie est douteuse. Cela viendrait du francique, langue que parlaient les Francs, scroda, qui veut dire lambeau, ou bien du latin scrofa, qui signifie vis femelle, pièce percée d'un trou taraudé afin de pouvoir se monter sur une vis de même diamètre nominal. Aujourd'hui, écrou, acte par lequel le directeur, non la directrice, de prison enregistre l'arrivée d'un prisonnier. Levée d'écrou, formalité de remise en liberté d'un prisonnier. Sur chaque porte, une fonction indiquée, et au bout du couloir, un gros sapin de Noël. Traverser à nouveau de la cour rectangulaire au haut mur tout gris. Salle d'attente sans poignée aux portes. Je vais aux toilettes propres et neuves. On nous ouvre. Je rends mon numéro de parloir. On me rend ma carte d'identité. J'ai retiré mes affaires du box de piscine. Je sors. Je respire. Hébété, encore une fois, je suis à nouveau sonné et je redécouvre la rue avec l'école primaire tout près, avec sa récréation d'enfants, criant, jouant, remuant, presque libres dans leur cour grillagée, leur cour éclairée. Leur mi-enfermement n'est que protection, Ils sont joyeux. Je file vers le fleuve. Le ponton de bois qui le longe fait de la percussion sous mes pas. Certaines personnes courent dessus. Elles filent. Femmes libres. Femmes de vie. Mes pieds écrasent la tristesse, le désespoir, les choses viles. Il en sort une sève, comme le baume chinois, qui soigne tout. Maux de ventre, maux de tête, nausées, bleu sur la peau, bleu sur l'âme et bleu le nuage. Un gros nuage gris, presque noir, s'avance au ciel. Et j'ai oublié le parapluie transparent de Lara dans la maison d'arrêt. Dans le porte-parapluie, seule chose prévue à notre confort par rapport aux objets qui nous accompagnent. Je me retrouve sur le pont, large, rempli de piétons, cyclistes et vendeurs à la sauvette. La rambarde coule sous les cadenas d'amour. On peut admirer l'eau foncée, lourde, tranquille et passagère. Le nuage est terriblement menaçant. Alors je m'enferme dans le monoprix de l'autre côté du pont. J'achète un jean pour demain, pour lui, le fils. En sortant, la pluie tombe dru. Nouvelle traversée du pont en courant, puis abri dans la poste au bas de la rue que je dois remonter. Un autre fleuve s'est formé et court devant l'entrée de la poste. Un orage diluvien s'abat dans ce pays qui n'a de pluie que des gouttes moyennes et non des seaux d'eau déversés comme chez nous dans le sud. La poste est pleine de gens trempés, étonnés de ce qu'ils découvrent. Jamais ils n'ont vu pareille pluie. Lors d'une fausse accalmie, je remonte en courant, m'arrêtant sous chaque auvent de chacune des boutiques. Un peu comme si je jouais, je conjure le sort en jouant pour avoir une vie plus belle. Ouf, enfin, la montée des escaliers de bois et l'appartement. Demain, ne pas oublier de reprendre le parapluie. Je m'écroule sur un fauteuil de cuir des années 50. Je n'en peux plus d'émotion. Le chat Pampan vient réchauffer mes genoux. Grosse boule, noire et blanc. C'est un Pampan plan-plan. Tisane, mots fléchés, il y a écrit « arme » et j'ai trouvé « Colt. Je pense coltiner. Mon cerveau se coltine la charge du Colt 44 utilisé par mon fils lors d'un état de craving pour faire peur à une femme qui retirait de l'argent à un distributeur afin de prendre l'avion pour rentrer dans son pays. Colt 44 utilisé par l'armée américaine entre 1860 et 1873. Arme de collection en vente libre. 1 kg, 20 grammes, 35 cm, 6 charges, donc 6 balles de plomb et de la poudre noire. Lui, mon fils, a acheté ça sur Internet. Cela est inouï, cauchemardesque. Je me coltine l'évidence. La preuve avec photo à l'appui chez l'avocate. Comment intégrer ce fait? Comment digérer cette information? Je suis non-violente et j'ai élevé ce fils dans cette idée-là. Que s'est-il passé en lui? Quelle sorte de souffrance psychique l'a mené vers cette solution, vers cette idée inacceptable? Pourtant, je dois l'accepter. Sinon, c'est mon propre psychisme qui vacillera. Je me coltine les voyages interminables et épuisants entre le nord et le sud de la France. Je n'ai pas les moyens financiers de prendre toujours l'autoroute. Alors, je traverse des régions, des montagnes, des prés, des haies appelées bouchures en Bourgogne, des villages pittoresques, des architectures séculaires, des routes départementales, des sinueuses, des toutes droites où je fais des excès de vitesse dont je reçois le procès-verbal des semaines plus tard à mon domicile. Comment rester assidu à effectuer ces trajets sans être épuisé et à chaque fois recommencer toutes les 6 semaines le but étant de parloir. J'évite de me laisser envahir par mes émotions. J'ai appris, nous apprenons sans arrêt le long de nos vies. Bientôt, ce sera la fin de sa rétention. Nous sommes en mars. La maladie virale a commencé à retenir chaque individu à domicile. C'est une décision mondiale, étrange. Tout le monde a peur, tout le monde obéit. L'ambiance des rues vides est lourde, comme dans un film de fiction. Bientôt, les animaux sauvages vont oser croire à la liberté et marcher dans les rues. Bientôt, les humains vont souffrir de l'enfermement et des maintes interdictions. Les psychologues et les psychiatres vont être envahis d'esprits égarés. Bientôt. Mais au sein de l'établissement pénitentiaire, il est question d'une libération. Est-ce si sûr? Les voix se multiplient. On dit qu'il va certainement sortir lorsque j'appelle un poste, mais on dit qu'on ne le sait pas quand j'en appelle un autre. Au troisième, on me dit « peut-être que oui, peut-être que non ». Le virus qui sévit rend toute décision incertaine. Puis le fils m'appelle. Il veut savoir, car on ne lui dit rien. Je me trouve en pleine nature et la connexion se fait très difficilement. Cela m'inquiète beaucoup. Il n'a pas beaucoup de temps pour appeler et je crains de ne pas pouvoir tout lui expliquer. Au milieu du thym, près d'un champ de chevaux, je lui dis qu'il doit rappeler. Je ne sais pas très bien encore. Mais son père est sur le départ pour aller le chercher. On raccroche. Il rappellera demain. Oui, le père n'a jamais pris l'habitude de s'informer. Pourquoi s'informer quand on est dans une certitude? C'est un fonctionnement personnel qui découvre souvent la réponse dans le temps qui passe. Rentré à la maison, j'appelle encore la prison et un homme me répond qu'il sortirait probablement à 8h du matin puisqu'on m'avait dit qu'il sortirait. Il sortira. Ce n'est toujours pas une réponse pour moi. Je rappelle encore un autre numéro. Une femme m'informe enfin avec une voix certaine qu'elle était en train de lire un papier sur lequel était écrit sorti le 23 mars à 11h du matin. « C'est sûr ?» je demande. Et elle me répond « Oui, c'est sûr. Vous savez, en ce moment, on ne le retient pas. Vous pouvez me croire. » Alors je dis merci 3 fois et je raccroche. Quel soulagement ! Le fils a rappelé. Je le lui ai dit. Il m'a répondu que, heureusement, que je m'étais informée car lui... Il ne l'était toujours pas, mais que maintenant, qu'il était sûr de ce que j'avançais, il allait s'adresser aux personnes qui doivent s'occuper de sa sortie. Ainsi, ce fut fait. Aujourd'hui, on nous empêche de nous toucher les uns les autres, sauf si on fait partie de la même famille, sous le même toit. Aujourd'hui, on nous oblige à porter des masques, aussi dans la rue, en plein air. On nous empêche de respirer le bon air que nous offre le ciel sous prétexte de contamination. Mon fils est sorti. On ne m'a rien raconté sur le voyage. J'ai vu des photos sur mon téléphone des amis qui l'ont guetté et embrassé. Il demeure à 30 km et je n'ai pas le droit de le voir, de le toucher. Aujourd'hui, je lutte contre une tristesse qui risque de m'anéantir plus que ce virus. Coronavirus, Covid-19, la Covid au féminin. C'est encore plus menaçant, comme semblaient menaçantes les sorcières envers les hommes qui commandaient le monde. Au féminin, c'est mieux, comme les ouragans que l'on baptisait d'un prénom féminin jusqu'à ce qu'une loi s'applique afin de décider de donner un prénom masculin une fois sur deux. Comment fait mon fils pour gérer ce second enfermement? Il est sorti à temps et on ne l'a pas retenu, sachant qu'aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, les parloirs sont interdits. Sachant que dans certaines prisons, en autorisant à nouveau les parloirs, on a installé un plexiglas entre la visiteuse masquée et le prisonnier masqué. Comment communiquer? De qui se moque-t-on? Qui invente ces absurdités? Qui rajoute de la souffrance à la souffrance? Comment les détenus vivent-ils cette privation énorme aujourd'hui? Les moments de parloir sont attendus comme les plus importants, les plus vibrants de ces journées mornes dont il faut à tout prix étirer le temps qui coule si lentement. Cela s'avère être une punition de plus. Remplir le temps, abolir le temps, ne pas compter le temps, sous peine de n'avoir pas la force de résister au temps qui reste à tirer, au temps qui reste à subir, au temps qui reste à dormir ou à être en rage. En ce mois de février, avant cette maladie mondiale, je longe à nouveau les mêmes éternelles routes de France. Cette nature au vert fluorescent qui demande aux yeux une adaptation ophtalmique. Parfois, un arbre parfait se tient nu sur un tapis velouté. Des trognes biscornues, nues aussi, m'envoient leur gueule à la figure, une attitude clownesque dans une manière théâtrale. Le moteur est au ralenti. Puis, dans l'immobilité du véhicule, il cesse son ronron. Je sors et m'étire, les pieds dans la terre. La fraîcheur de l'atmosphère accroche mes poumons. J'observe les silhouettes des trognes qui offrent leur passé généreux d'avoir tout donné, de s'être laissé couper et recouper les branches à l'infini et à l'insu aussi de leur propre vie d'arbre. Trognes en vrac, visage empreint de cent expressions. Bonsaï d'Occident non taillé dans la dentelle. Figure pleine de grimaces de théâtre, figurez-vous. Tête noire des végétaux sans feuilles, crispation d'un corps de danseuse, de buteau. Expression du fond des âmes. Vie extasiée d'une souffrance inavouable. Et pourtant, tournée vers le ciel, toujours et encore. Ciel, référence de la transcendance humaine ou végétale. Trogne belle, coupée comme des hélices auprès d'un saule aux bras souples. N'avoir rien dit, avoir laissé faire les entailles, sans crier nullement. Parce qu'on est un arbre, on demeure silencieux. Mais on ne se résigne point, cherchant encore et toujours la verticalité malgré tout. Les arbres sont nos proches cousins, comme nous, ils se dressent vers le ciel. Si on enferme un plant d'arbre, le pot à l'horizontale et dans le noir complet, la tige monte vers le ciel, invisible. Et si on enferme un plant dans la même position, au milieu d'une pièce éclairée, de par tous les azimuts, la tige va aussi vers le ciel. Les scientifiques concluent à une lutte contre l'apesanteur et non pas à une recherche de la lumière. Les arbres font donc preuve de proprioception comme nous les humains. Sensibilité, schéma corporel. Comment donc fonctionne notre don de proprioception au creux d'un espace restreint de 9 mètres carrés? Ceci tous les jours de notre vie. Nos gestes s'amenuisent, les pas se font rares, les bras ne vont plus ni vers le ciel ni sur les côtés, de peur de heurter le mur de béton ou le lit de fer. On ne les étend plus. Le besoin s'enfuit-il? Nos pensées traversent les murs, les grilles, les barbelés et les oiseaux emportent les prières vers les âmes empathiques. Notre corps sans pattes grossit, perd de son allure de dignité. Je vais le voir bientôt, mon fils, une dernière fois, dans ce parloir. Après la respiration des arbres, J'irai humer les grilles. Les pièces à l'air confiné. Je le verrai, son corps épaissi par tous les chocolats, les biscuits, les médicaments. Il était si fin, un brindille élégant, un enfant léger. Après le confinement de la population, je le verrai, le fils. Cela fera 9 mois de prison, 9 mois de gestation dans le cerveau. La boucle sera bouclée. 9 parloirs, 6 000 kilomètres, dont 4 500 en voiture, seule. 40aine de lettres postales, des millions d'arbres, des dizaines de montagnes, des centaines de routes et un grand oiseau blanc. L'oiseau du mois de février se posant sur le champ bordant la route, tel un ange de bon augure. Il s'est approché, déployé, planant lentement pour atterrir sur l'herbe rase, près de mon véhicule au ralenti. Il faisait une lumière céleste auprès des arbres grisâtres, profitant de l'atmosphère. Emblème extatique de la liberté, analogie de la fuite de l'esprit vers le ciel, celui qui prédit que tout cela va se terminer et s'apaiser. La boucle sera bouclée, ignorant qu'une autre espèce d'enfermement retiendra à la maison chaque individu de la planète, sauf les vrais pauvres, bien sûr, dont on ne parlera pas et qui, si pauvres sont-ils, qu'ils ne peuvent s'enfermer à 10 personnes dans un bidonville de 10 mètres carrés. N'ayant plus aucun moyen de subsistance, commenceront à mourir de faim. Cela, on n'en parle pas. On fait peur à ceux qui ont les moyens d'avoir peur. Que peuvent craindre celles et ceux qui n'ont rien? De mourir un peu plus tôt, de faim, de tout ce qui manque par ailleurs. Il va sortir. Il va sortir. Sa sortie est prévue alors que le confinement causé par cette énorme grippe nommée coronavirus, que l'on a ensuite renommé le Covid, puis la Covid est déjà mise en marche. Une des rares voitures en déplacement en France se fera avec le fils et son père à l'intérieur. Ce fils nouvellement libéré, puis ce fils nouvellement confiné. Pendant 3 mois, nous ne nous verrons toujours pas. Pendant 3 mois, parce que nous croyons fermement que nous étions en danger de mort. Nous avons obéi et nous ne nous sommes pas rencontrés. J'ai attendu dans ma petite maison en exécutant consciencieusement les consignes mondiales et nationales. Rester chez soi, sortir 1 heure par jour avec un papier me donnant la permission, signé par moi-même. Inédit ? La boucle du fleuve m'aura accompagnée, bercée. Fred et Lara sont mes héros. Ils m'ont soutenue avec Mila et Miguel qui ont marché près de moi. Le foulard turquoise ayant absorbé mes émois. Le sable du sablier n'a pas fait de château et l'horloge a rendu son tic-tac. Et puis, à la lumière d'un ciel presque d'été, en ouvrant la porte en bas de chez moi, il a été là. Chemise blanche et blue jean, cheveux coiffés mi-long, en chair, en sourire, en parole, en hésitation. Tu es là? Je suis venue. Nous nous sommes embrassés avec nos longs bras. Ainsi se termine la boucle, ce témoignage vécu par Manouchka Poinsignon.